Je présente maintenant Alain Renaud. Alain Renaud est un philosophe bien connu. Il est né en 1948, ancien élève d'école normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur d'État. Il a été professeur de lycée jusqu'en 1980, puis maître de conférence à l'université de Nantes à partir de 1980, professeur à l'université de Caen jusqu'en 1995, et il est actuellement professeur de philosophie morale et politique à l'université de Paris 4, Paris-Sorbonne, où il est aussi directeur de l'UFR de philosophie. Il est en outre président du groupe technique disciplinaire de philosophie auprès du ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que tu es président du groupe qui réfléchit sur l'avenir et les modalités de l'enseignement de la discipline. Spécialités sont la philosophie du droit, la philosophie de la politique, ainsi que la philosophie allemande. Alors, ces publications sont très nombreuses, mais je ne vais pas toutes les reprendre. Il a eu un certain nombre de publications en collaboration avec Luc Ferry, des droits de l'homme à l'idée républicaine, essai sur la critique de la raison dans la philosophie contemporaine, toujours avec Luc Ferry, de lui seul, le système du droit, philosophie et droit dans la pensée de Fichte, l'ère de l'individu, bon, je passe des choses, Heidegger et les modernes, mais je viens aux publications les plus récentes, c'est-à-dire celles que vous pouvez le plus facilement vous procurer et qui ont le plus de relations peut-être à la conférence d'aujourd'hui. La guerre des dieux, essai sur la querelle des valeurs dans la philosophie contemporaine, en collaboration avec Sylvie Mesure, chez Grasset en 1996. Libéralisme et pluralisme culturel, les éditions Plein Feu à Nantes en 1999. Alter Ego, les paradoxes de l'identité démocratique, en collaboration toujours avec Sylvie Mesure, chez Aubier l'année dernière, 1999. Une monumentale histoire de la philosophie politique en 5 volumes chez Kalman Levy fin en 99, et enfin la republication, je ne sais pas, de livre Kant aujourd'hui chez Flammarion datant de l'an 2000. Je lui passe la parole donc pour sa conférence sur multiculturalisme, pluralisme et communautarisme. Merci.
Je vous remercie. Le terme de multiculturalisme, comme vous le savez, nous est arrivé du Canada, où au début des années 1970, c'est le gouvernement fédéral, le premier ministre du gouvernement fédéral, Pierre-Éliott Trudeau, qui a entrepris de défendre sous ce terme, sous cet intitulé de multiculturalisme, contre une politique d'assimilation des immigrés, le principe d'une reconnaissance politique et sociale de la diversité culturelle. Il s'agissait en réalité d'une sorte de tactique ou d'opération politique dans la mesure où l'objectif était ainsi de tirer profit du fait que le Canada ne cesse de se constituer, de se reconstituer à partir de l'immigration pour noyer dans une politique globale pour noyer la demande exprimée par la minorité francophone québécoise de voir mieux reconnue son identité. Donc stratégiquement, il pouvait en effet être habile de proclamer qu'au Canada, ainsi que l'a fait Trudeau à ce moment, même s'il y a deux langues officielles, il n'y a pas de culture officielle et qu'aucun groupe ethnique n'a de préséance sur d'autres. L'objectif était assez clair, en même temps que le choix politique ainsi opéré était habile, puisque en faisant du multiculturalisme son programme, le gouvernement fédéral essayait d'évacuer la revendication québécoise et de conjurer ou de maîtriser le risque de sécession que cette revendication du Québec véhiculait avec elle. En vertu de quoi, à partir donc de ce début des années 1970, le multiculturalisme est devenu un principe constitutionnel qui s'est inscrit dans la Charte canadienne des droits et des libertés expressément depuis 1982. Il y a donc une émergence historique très précise du programme multiculturaliste qui est à peu près celle-ci. Cela dit, cette émergence du programme multiculturaliste ne doit pas masquer que, au-delà de ce contexte, au-delà du contexte que je viens de signaler rapidement, le principe politique qui était ainsi affirmé s'intégrait avec une logique très forte et avec une logique irréductible aux données de ce contexte dans l'héritage du libéralisme politique moderne. Si on définit en effet le programme multiculturaliste comme celui d'une prise en compte politique de la pluralité des cultures, si on le définit au fond par la reconnaissance du pluralisme culturel, le multiculturalisme prolonge de façon assez compréhensible la teneur même du pari sur la base duquel s'étaient édifiées les sociétés libérales, cela depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis les guerres de religion anglaises des XVIe et XVIIe siècles. Vous savez que les sociétés qui avaient été déchirées par ces conflits religieux se sont aperçues à peu près à cette période que pour permettre aux diverses communautés confessionnelles d'y survivre en commun, eh bien, il fallait, la meilleure solution était sans doute d'y instaurer un principe de tolérance vis-à-vis de la diversité des croyances. La nécessité s'est ainsi imposée d'accepter au fond le pluralisme des systèmes de valeurs, d'accepter le pluralisme des conceptions du bien comme inhérent à des sociétés qui ne pouvaient plus, en vertu même des conflits qui venaient de les déchirer, des sociétés qui ne pouvaient plus se figurer qu'il y avait inscrit quelque part dans le ciel des idées ou je ne sais où un système unique de normes et de valeurs inscrit dans le ciel des idées ou dans le passé de la tradition et qui devait rassembler la totalité des membres de cette société. Et donc depuis cette époque, on considère qu'une société libérale est une société qui fait de ce pluralisme, de la reconnaissance, de l'acceptation et de la valorisation de cette pluralité, une valeur, en posant que la seule attitude concevable et convenable vis-à-vis de cette pluralité est la tolérance et, de la part de l'État, la neutralité, ne serait-ce que dans la mesure où ne pas tolérer ce pluralisme serait conduire la société à exploser. L'actuel programme multiculturaliste correspond au fond à une nouvelle phase de ce pari, à une nouvelle phase ou à une nouvelle forme, à un prolongement, à une extension de ce pari libéral. Si l'on admet en effet que, ce qui n'est pas, je crois, très, très délicat, si l'on admet que la pluralité des systèmes de valeurs trouve une incarnation au-delà des religions, dans la pluralité des cultures, comment ne pas considérer en effet qu'il était inhérent à la logique même de société rassemblant en elle des groupes culturels divers, d'en venir à s'interroger sur cet approfondissement du pluralisme libéral que semble devoir être le multiculturalisme. Du pluralisme des conceptions du bien ou du pluralisme des systèmes de valeurs au pluralisme culturel, il semble n'y avoir qu'une extension et la conséquence paraît devoir être à la fois bonne et forte, à condition toutefois, c'est évident, de ne pas, à la faveur de cette extension, à la faveur de cet élargissement, à condition de ne pas fragiliser la consistance même des sociétés concernées. Un des problèmes clés des démocraties libérales, depuis leur naissance, avait en effet tenu déjà à la manière dont la pluralité des conceptions du bien, la pluralité des systèmes de valeurs qui s'y trouvaient reconnus et garantis, risquait d'affaiblir en elle la consistance, la force du lien social. Accepter par conséquent d'aller encore plus loin, accepter de transposer le pluralisme aux cultures, ne saurait avoir de sens si l'éventualité de voir ce risque se radicaliser encore ne pouvait être prévenue, maîtrisée, contrôlée, évitée. Ce risque est aujourd'hui désigné, comme vous le savez, de plus en plus couramment, comme le risque d'une communautarisation des sociétés multiculturelles, au sens où elles risquent de se trouver exposées à se fragmenter ou à se désintégrer en une diversité de communautés se refermant de plus en plus sur elles-mêmes, chacune sur son système de normes, chacune sur son système de référence. Si le principe multiculturaliste, si cette extension du pluralisme devait entraîner avec elle ou avec lui une telle dérive communautarienne, il est clair que l'élargissement du pluralisme aux cultures mettrait les sociétés libérales en contradiction avec elles-mêmes, c'est-à-dire avec leur projet de faire vivre véritablement ensemble des individus reconnaissant leurs différences. Pour aborder ce dossier complexe, au centre duquel se trouve le problème que je viens de présenter rapidement, j'ai choisi de ne pas en rester au niveau des positions de principe qui sont abstraites et qui, en tant qu'elles sont abstraites, sont toujours difficiles à tester et à discuter. J'ai choisi de considérer plutôt ces interrogations sous une forme particulière, sous une forme plus opératoire, à partir d'une réflexion sur le débat récent qui a eu lieu en France à propos des langues régionales et minoritaires. En évoquant cette discussion, dont je sais parfaitement qu'elle est encore brûlante, mais qui a l'avantage de se relier directement comme un point d'application, et comme un point d'application qui plus est, qui nous concerne directement, à la question du pluralisme culturel, mon objectif est de montrer en quoi, dans sa phase la plus récente, ce débat français permet de, au fond, rendre les options en présence plus représentables et donc plus aisément discutables que ce n'est le cas quand on les considère simplement dans leur généralité. Et donc je voudrais montrer que la portée politique et philosophique de ce débat français sur les langues régionales dépasse de loin, je crois, des questions comme celle de savoir si la sécurité sociale doit fournir des formulaires en breton, si le code civil doit être traduit en occitan, s'il faut qu'un procès puisse se dérouler en basque ou en corse. Ce sont des questions pour lesquelles on peut évidemment se passionner, mais il me semble qu'elles peuvent aussi masquer le véritable enjeu de la discussion, ce véritable enjeu qui touche, c'est cela que je voudrais montrer, à la reconnaissance de la diversité culturelle. Je commence par cadrer très vite ce débat récent en rappelant les grandes lignes. Le 11 octobre 1997, le Premier ministre Lionel Jospin déclarait, en prononçant à Strasbourg le discours de clôture du sommet du Conseil de l'Europe, il déclarait ceci: « L'Europe a besoin d'affirmer son identité, qui est faite de la diversité de son patrimoine linguistique et culturel. À cet égard, les langues et cultures régionales méritent de notre part une attention toute particulière. Nous devons les préserver et les faire vivre. » Symétriquement, à l'autre extrême de ce débat, à l'autre extrême chronologique de ce débat, le 23 juin 1999, donc il y a moins d'un an, le président de la République, Jacques Chirac, saisi par Matignon d'une demande concernant la réforme constitutionnelle requise pour que la Charte européenne des langues régionales puisse être ratifiée, refusait, comme vous vous en souvenez, de donner son accord à cette procédure. On ne saurait comprendre, je crois, la vivacité des confrontations de points de vue qui ont eu lieu entre ces deux dates sans être attentif à la façon dont ce débat s'est en fait déroulé à la conjonction de deux processus tout à fait antithétiques, un processus européen qui met en jeu les institutions européennes et un processus plus franco-français qui relève, disons, des allées et venues, des oscillations auxquelles se trouve soumise, à la faveur des alternances électorales, la politique linguistique et culturelle de la France. Pour ce qui est du plan européen, la charte des langues régionales ou minoritaires avait été adoptée, il y a déjà très longtemps, elle avait été adoptée le 5 décembre 1992 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Cette charte proposait aux États signataires une liste d'engagements exprimant, pour résumer, un idéal de tolérance linguistique. Elle définissait également une procédure de ratification souple, dans le détail de laquelle je n'entre pas, qui permettait que le document, au fond, donne lieu à des engagements plus ou moins accentués selon les pays. Cette procédure de ratification souple a fait que le document est entré en application pour 7 pays le 1er mars 1998. La France ne faisait pas partie de ces pays. Du côté français, le second processus qui est entré en effet en conjonction avec celui-ci, du côté français, c'est un tout autre processus qui s'est déroulé durant les deux dernières décennies. En 92 également, l'année même, et la conjonction des deux dates est très intéressante, l'année même où le Conseil de l'Europe adoptait la Charte des langues régionales, la France révisait sa constitution. L'article 2 de la Constitution de 1958 se voyait adjoindre une formule tout à fait tranchante, en même temps que tranchée, puisque la formule adjointe à la Constitution, dans son article 2, était la suivante : la langue de la République est le français. Que dans ces conditions, la France n'ait pas fait partie, je le disais à l'instant, des premiers pays à enclencher le processus de ratification de la Charte européenne des langues régionales, ne peut pas être très surprenant. Un conflit s'est en effet creusé à partir de ce moment entre deux logiques opposées, l'une européenne, l'autre nationale, qui se sont ensuite affirmées de plus en plus fortement dans la vie politique hexagonale elle-même. En dépit de cet écart dans les trajectoires européennes et nationales, au nom du gouvernement et avec l'accord du président de la République, le ministre délégué aux Affaires européennes, Pierre Moscovici, a paraphé l'an dernier, il y a quasiment un an jour pour jour, enfin un jour près, le 7 mai 1999, au nom de la France, la Charte européenne à Budapest, paraphe à la faveur duquel la France devenait le 18e pays signataire et pouvait annoncer, donc il y a un an plus un jour, pouvait annoncer pour l'an 2000 une ratification qui eût supposé, parce que la charte s'apparente à un traité international, une ratification qui aurait supposé l'accord du Sénat et de l'Assemblée nationale. Nous nous souvenons alors que le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, a estimé le 20 juin dernier que la charte comportait des clauses contraires à la Constitution. Je rappelle que deux points ont été ainsi incriminés. Premier point, s'engager pour encourager l'usage des langues régionales à prendre en considération, comme le dit le texte de la charte, les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues, ce serait choisir, a estimé le Conseil constitutionnel, une option contraire au principe d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Plus précisément, je commente la formule, ce geste, prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant les langues régionales ou minoritaires, équivaudrait, a estimé le Conseil constitutionnel, à conférer des droits spécifiques à des groupes, alors que les principes fondamentaux de notre Constitution, en assurant, conformément à son article 1er, l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, s'opposent à ce que soient reconnus, a dit le Conseil constitutionnel, des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Premier point, incriminé comme contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 20 juin dernier. Deuxième point, reconnaître à chaque personne, selon la formule du préambule de la Charte européenne, un droit imprescriptible à pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique, équivaudrait en outre à estimer le Conseil constitutionnel à s'engager dans des dispositions contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution, c'est-à-dire à cet article ajouté en 92 que j'évoquais il y a 5 minutes, qui stipule que la langue de la République est le français. De telles dispositions tendraient en effet à reconnaître un droit, je suis en train de citer l'avis du Conseil constitutionnel, à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français, non seulement dans la vie privée, mais également dans la vie publique. Donc voilà les deux points incriminés par le Conseil constitutionnel. De toute évidence, cet avis hypothéquait très lourdement la réussite de la tentative et, en conséquence, le 23 juin dernier, le président de la République refusa donc d'entreprendre la révision constitutionnelle que la poursuite du processus aurait supposé et que lui demandait d'enclencher le Premier ministre, en estimant que cette perspective serait de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux de la République. Est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort? C'est difficile de le dire. En tout cas, tactiquement, disons-le comme cela, tactiquement, l'intérêt bien compris, ce qui est quand même l'objectif majeur des politiques, l'intérêt bien compris, et en l'occurrence l'intérêt partagé de l'Élysée et de Matignon, devenait de botter en touche dans la mesure où, en termes de politique politicienne, il est assez clair que l'opération menaçait d'avoir un coût tout à fait exorbitant. Par là même, un terme provisoire s'est trouvé mis à un débat, 23 juin dernier, qui avait révélé, comme va le montrer une analyse des arguments utilisés dans les deux camps, un débat qui révèle, je crois, à quel point dans notre pays les exigences du pluralisme culturel peuvent effectivement demeurer très difficiles à assumer en toute clarté. Considérons l'argumentaire des deux camps en présence. Cet argumentaire me paraît centré, pour ce qui est des adversaires de la ratification, principalement sur trois objections. Il y en a eu beaucoup d'autres, n'est-ce pas, dans les deux camps en présence. Je retiens à chaque fois les arguments les plus caractéristiques des positions en présence. Premier argument des adversaires de la ratification, prendre en charge sous cette forme la revendication identitaire, ce serait remettre en cause la conception républicaine de la nation. Ce serait remettre en cause une conception de la nation reposant sur la volonté partagée d'édifier un avenir commun de progrès. Parce que l'identité républicaine transcende les particularismes, il ne saurait entrer dans sa logique, ont estimé les adversaires de la ratification, d'organiser au sein de l'État-nation de quelconque communauté linguistique. Bref, l'adhésion à la charte procéderait d'une philosophie anti-républicaine où l'on pourrait identifier derrière la proclamation affichée de pluralisme culturel le spectre du communautarisme. Deuxièmement, deuxième argument, sous l'apparence d'une politique de défense de langues maltraitées par la République, il se dissimulerait une offensive politique contre le principe même de l'État-nation. Lorsque la charte envisage en effet que les assemblées locales puissent délibérer dans telle langue régionale concernée, et que du même coup des liens privilégiés puissent s'établir par-delà les frontières entre des régions appartenant à, par exemple, deux États différents, mais parlant la même langue régionale. Eh bien, il s'agirait en fait, ont estimé les adversaires de la ratification, de contribuer à un projet politique d'Europe des régions. Donc à un projet alternatif à celui de l'Europe des nations. Et par conséquent, indépendamment des réserves susceptibles d'être adressées à la teneur intrinsèque de ce projet d'Europe des régions, il se traduirait, en tout cas pour la France, par un affaiblissement de l'État-nation et des valeurs que l'État-nation véhicule avec lui. Troisième et dernièrement, en mentionnant des groupes que l'État devrait reconnaître comme tels et dont il devrait financer les besoins, la charte tendrait à introduire entre l'individu et l'État des sortes de corps intermédiaires nouveaux dont il y aurait lieu de craindre que ces corps intermédiaires puissent venir à constituer dans la vie politique des forces monnayant à telle ou telle occasion leur soutien. Surtout, au-delà du risque d'introduire des nouveaux lobbies, indépendamment de ce risque-là, la conception même du sujet de droit se déplacerait, à la faveur de l'apparition de tels groupes, la conception même du sujet de droit se déplacerait de l'individu vers des sujets collectifs, s'apparentant notamment aux corporations d'Ancien Régime, aux ordres d'Ancien Régime, avec leurs droits spécifiques et leurs privilèges. Je passe dans l'autre camp, du côté des partisans de la ratification, quel a été l'argumentaire? Je retiens là aussi trois considérations principales qui résument l'argumentation des partisans de la ratification de la charte. Premièrement, un argument historique qui consiste à souligner que, sous l'emprise du jacobinisme, la République a tout fait pour étouffer, voire pour interdire la pratique des langues régionales. L'argument consiste à souligner notamment que, à tort ou à raison, n'est-ce pas, je décris les arguments pour l'instant, que les hussards noirs de Jules Ferry ont imposé la pratique du français à des enfants dont ce n'était pas la langue maternelle, en sorte que, aussi bien aujourd'hui, aussi bien au nom des libertés qui ont ainsi été bafouées que par considération de l'appauvrissement culturel infligé au patrimoine culturel de la France, de l'Europe et de l'humanité, eh bien, force serait de se réjouir de la renaissance possible de certaines de ces langues. Je résume au fond ce premier argument historique. Dans un monde en voie de globalisation, comment ne pas encourager une aspiration à préserver encore son identité et ses racines? Deuxièmement, refuser la charte, ce serait en outre remettre en cause la place même de la France dans la communauté européenne. Alors, c'est un argument important qui se subdivise. D'une part, en une question de fait, la France, en n'adoptant pas elle-même un texte, la charte européenne, dont il faut savoir que l'acceptation est aujourd'hui imposée à tout pays désireux de faire partie du Conseil de l'Europe, comme une condition mise à son intégration. En refusant ce texte ou en ne l'adoptant pas, la France risquerait à terme de se placer en marge de cette communauté. D'autre part, plus profondément peut-être, la France a coutume de rappeler, notamment au sein des institutions européennes ou dans les grandes rencontres internationales, la France a coutume de rappeler volontiers au respect de la pluralité des cultures. Elle le fait, par exemple, contre le déferlement des produits standardisés de l'industrie culturelle. Elle le fait aussi face à l'hégémonie de l'anglais comme langue de communication. Du même coup, comment ce respect de la pluralité culturelle, auquel la France appelle et a raison d'appeler, comment ce respect pourrait-il se limiter au plurilinguisme des langues officielles des États ? J'explicite un tout petit peu l'argument, il est assez habile. Si d'aventure une véritable forme d'intégration politique devait faire apparaître à court terme, à moyen terme, à long terme, la communauté européenne comme un nouvel espace de citoyenneté, la question se poserait alors de savoir quel statut juridique il s'agirait d'y conférer à la diversité des appartenances culturelles que se reconnaîtraient les individus, y compris dans leurs actuelles composantes nationales. Dans une telle hypothèse, est-ce que nous resterions aussi convaincus que nous pouvons l'être parfois ? Est-ce que nous resterions aussi convaincus qu'au niveau européen également, l'attribution de droits égaux aux citoyens serait rigoureusement incompatible avec la reconnaissance de leurs droits à voir respecter leur identité culturelle distincte dans la diversité de ces modes d'expression ? Bref, si l'on souhaite que la construction européenne n'interdise pas demain aux formes de vie culturelle, ethnique et religieuse que la communauté regroupe de coexister, si l'on souhaite que la construction européenne n'empêche pas les individus de développer librement ces formes de vie culturelle distinctes, y compris dans leurs composantes actuellement nationales, pourquoi la même conviction ne s'appliquerait-elle pas dès aujourd'hui à l'intérieur des États-nations eux-mêmes, ne serait-ce que, à des fins, si je puis dire, pédagogiques, ne serait-ce que pour préparer cette transition dont on peut considérer qu'elle est plus exaltante que le simple passage à une monnaie commune. L'importance d'une reconnaissance accordée à la diversité linguistique interne ne se mesurerait donc pas, estiment les défenseurs de la ratification, au nombre des individus concernés. Il est vrai actuellement qu'en France, moins de 3% des élèves suivent les enseignements proposés en vue de les initier à une langue régionale, mais on peut considérer que c'est là précisément une donnée significative surtout de l'état dans lequel se trouvent les parlers locaux après des siècles de centralisation linguistique et, qui plus est, une telle donnée ne saurait par elle-même hypothéquer la portée symbolique qu'il pourrait y avoir à renforcer les garanties apportées au pluralisme linguistique par un programme d'éducation à un respect de la diversité des langues et des cultures qui, de toute façon, sera de plus en plus nécessaire à mesure que l'Europe politique deviendra une réalité. Et puis, troisième et dernier argument des partisans de la ratification, la décision du Conseil constitutionnel a certes été dans une relation de pleine cohérence avec la révision de 1992 qui avait fait apparaître le français comme langue de la République. Pour autant, loin de se trouver réglé par cette logique, par la prise en compte de cette logique constitutionnelle, le problème soulevé par la ratification ne doit-il pas cependant être considéré plutôt comme l'indice que la révision de 1992 témoignait d'une dérive dans la conception même de l'identité républicaine. Là aussi, j'explicite l'argument. Le législateur, en 1992, a pris la responsabilité de placer une marque d'identité culturelle à travers la langue française sur un pied d'égalité avec ces principes majeurs de la République que sont le gouvernement du peuple par le peuple ou la devise liberté, égalité, fraternité. Cet ajout apporté à la Constitution, dont on sait qu'il a été obtenu à l'occasion d'un sursaut nationaliste contre l'extension de l'anglais en 92, cet ajout effaçait en réalité une conception de la nation, une conception paradoxalement proprement française de la nation, qui datait de 2 siècles. À la faveur de cet ajout, à la nation civique, à la nation fondée sur la citoyenneté et sur la volonté de vivre ensemble, on a tendu à substituer une nation ethnique fondée sur le partage d'un héritage culturel sédimenté dans une unité de langue. Et pour la première fois, par conséquent, en 92, les valeurs de l'appartenance l'ont en France emporté sur celles des droits de l'homme. Voilà l'argument. Sous prétexte de sauvegarder l'identité, voire l'exception culturelle de la France, le choix accompli en 1992 aboutirait en fait à remettre en cause et à sacrifier les caractéristiques potentiellement universalistes du modèle républicain français. Aux antipodes de la communauté de citoyens que la nation française constitue aux yeux de ses meilleurs défenseurs, la nation des républicanistes aurait choisi le risque d'une sorte de dérive ethniciste faisant de la France le seul pays, et ceci factuellement et incontestable, faisant de la France le seul pays de l'Union européenne dont la Constitution consacre aujourd'hui la position exclusive d'une langue officielle, sans se référer au statut des autres langues historiquement implantées sur son territoire. En ce sens, je termine d'expliciter ce troisième argument des défenseurs de la ratification, où est le vrai danger communautarien ? Le danger communautarien résiderait en réalité moins dans la fragmentation redoutée de la société française que dans cette option même prise par les souverainistes français de tous bords, puisque, au service d'un repli nationaliste, cette option aboutirait en réalité à une sorte de fragmentation communautarienne de l'Europe, cloisonnant les populations dans des communautés nationales dont chacune se regrouperait autour d'une identité culturelle et linguistique distincte et politiquement homogène. Voilà les termes du débat. Il me semble que c'est un débat troublant. Je crois qu'on peut en convenir à partir de la confrontation de ces deux séries d'arguments. D'une part, je crois que nous sommes obligés de convenir que l'ampleur de ce qui est engagé dans ce débat est tout à fait considérable. C'est pourquoi je disais que ça va bien au-delà de la question de savoir s'il faut permettre de tenir un procès en Corse ou en breton, etc., ou de traduire le code civil en occitan, parce que ce débat engage des choses tout aussi considérables que la conception du sujet de droit, la conception de la nation, le destin des États-nations dans la construction européenne, la relation entre républicanisme et communautarisme, etc. D'autre part, c'est un débat troublant parce que, en raison même de la complexité de ces enjeux, il me semble très honnêtement qu'aucune des deux positions en présence ne peut être traitée avec légèreté. Je veux dire qu'aucune des deux positions en présence, je viens d'essayer de les exposer en donnant à l'une et à l'autre le plus de cohérence possible, il me semble qu'ainsi présentée, aucune des deux positions en présence ne peut être purement et simplement opposée à l'autre, comme on opposerait l'erreur à la vérité ou le mal au bien. Plus raisonnablement, il me semble que nous sommes ici en présence de deux modèles, de deux types de positions, de deux modèles, dont chacun possède une relative consistance et correspond au fond à un choix qui, comme tous les choix susceptibles d'être argumentés, renvoie en définitive, renvoie de façon ultime à un choix de valeur. Et c'est sur cette dimension même du choix entre les deux positions en présence que je voudrais encore proposer quelques remarques afin de rendre visibles, lisibles les motifs de mon propre choix en faveur de ce que je désignerais, je vais essayer d'expliciter cet intitulé, en faveur d'un multiculturalisme tempéré. Et j'essaierai de dire tempéré par quoi ? Ma conviction est que le processus de ratification de la Charte européenne doit être réenclenché le plus rapidement possible, mais dans des conditions qui en rendraient la signification et les objectifs plus clairs. Et il me semble que pour cela, deux conditions devraient être remplies. La première condition à remplir pour que le processus puisse reprendre et reprendre dans de bonnes conditions de clarté est une révision de l'article 2 de la Constitution de 1958. L'énoncé qui fait du seul français, sans plus de précision, la langue de la République exposera, je crois, notre pays, s'il devait rester non modifié ou non complété, à une invraisemblable série de difficultés, dont le blocage intervenu sur la charte des langues régionales ne sera qu'un exemple. J'en prends un autre. On pourrait vraiment en prendre beaucoup d'autres, et il y en aura beaucoup d'autres si les choses ne se modifient pas. Un autre exemple frappant de telles difficultés est celui qui est fourni par la manière dont la France a ratifié la Convention universelle des droits de l'enfant en août 1990. En août 1990, selon une interprétation de la Constitution que la révision de 1992 n'a fait ensuite qu'expliciter, la révision qui a fait apparaître le français comme la langue de la République, en août 1990, le gouvernement Balladur a ratifié la Convention universelle des droits de l'enfant au prix d'une très étonnante et très extraordinaire réserve que je trouve significative des effets pervers induits par le monolinguisme républicain. La Convention des droits de l'enfant, adoptée par l'ONU en 1989, stipulait en effet dans son article 30, je le cite, dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. Alors, le gouvernement d'Edouard Balladur a accepté la Convention des droits de l'enfant en précisant que cet article 30, je cite la déclaration dont le gouvernement français a assorti sa ratification, cet article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République. On comprend bien pourquoi. Déjà dicté en 1990 par une répugnance à admettre la référence à des groupes culturels dont les enfants pourraient être membres, ce refus d'une dimension tout à fait importante des droits de l'enfant le serait évidemment encore davantage, le serait bien davantage encore, depuis la proclamation d'unilinguisme introduite en 1992 dans notre Constitution. Il est donc tout à fait prévisible que cette option conduira la France à des difficultés répétées chaque fois, comme dans l'exemple que je viens d'évoquer brièvement, chaque fois qu'il s'agira d'adhérer à une convention internationale faisant du droit d'affirmer son identité culturelle, notamment son identité linguistique, un des droits fondamentaux de la personne humaine. Un État démocratique qui proclame volontiers, comme le fait la France, l'importance de sa contribution historique à la conception des valeurs des droits de l'homme, peut-il durablement se mettre ainsi en marge d'un travail d'approfondissement et d'enrichissement de telles valeurs ? Pour autant, on ne saurait évidemment envisager de réparer le mal causé aux langues régionales en consentant à une fragilisation irresponsable de ce qui en a été l'envers. Je veux dire que l'enseignement du français dispensé à tous les enfants a indéniablement contribué dans notre histoire à la construction d'une unité nationale capable de résister au péril de cette histoire. En ce sens, les termes du problème doivent être pesés avec soin, puisqu'il s'agit de corriger, je crois, la profession d'unilinguisme dogmatique introduite dans la Constitution en 1992, sans pour autant affaiblir le français et détruire l'unité nationale. Comme vous le savez peut-être, un certain nombre de propositions ont été faites à cet égard depuis quelques années. Je voudrais en faire une très brièvement et modestement à mon tour. Il serait parfaitement envisageable, je crois, de réécrire l'article 2 de la Constitution en y intégrant l'esprit d'un sous-amendement qui avait été écarté lors du débat de 1992, qui a abouti à cet article selon lequel le français est la langue de la République. On pourrait en effet y inclure la mention qu'avait évoquée un sous-amendement écarté, la mention du nécessaire, je cite, « respect des langues et cultures régionales et territoriales de France ». Plus précisément, pour clarifier les statuts respectifs du français et des langues régionales ou minoritaires, il serait possible d'écrire que, si le français est la seule langue officielle de la République, on peut continuer d'utiliser cette formule, on peut par ailleurs reconnaître comme des langues nationales, concept que je propose, comme des langues nationales en un sens très précis, c'est-à-dire des langues s'inscrivant dans l'histoire de notre nation, les langues régionales ou minoritaires correspondant à des critères soigneusement définis. Cela permettrait d'assurer une différence très claire de statut entre la langue officielle et les langues nationales, en assurant une telle différence de statut entre la langue officielle et les langues nationales, la Constitution ménagerait à la fois la prééminence de la première, prééminence tout à fait nécessaire, indispensable, de la première, comme condition indispensable à l'existence d'une communauté de citoyens, et d'autre part la reconnaissance des secondes. Aussi bien leur reconnaissance pour ce qu'elles ont été, c'est-à-dire des vecteurs où se sont déposés des moments de l'histoire de cet assemblage de populations qui a fait notre nation, que leur reconnaissance pour ce qu'elles sont encore, à savoir des dimensions de l'univers culturel par référence auxquelles certains d'entre nous, certains d'entre vous peut-être, cernent une part de leur identité. Si cette condition constitutionnelle se trouvait remplie, ce qui ne me paraît pas impossible, il resterait alors à contourner l'autre objection majeure faite par le juge constitutionnel il y a moins d'un an, et par l'examen de laquelle je termine, est-ce que le texte de la charte est ou non compatible avec la conception même du droit que nous avons hérité du libéralisme politique moderne et qui fait de l'individu comme tel le seul et unique sujet de droit. La mention de groupes culturels ou linguistiques n'implique-t-elle pas la reconnaissance de droits non plus simplement individuels mais collectifs ? Reconnaître des droits collectifs, essayons de comprendre la difficulté qu'ont objecté à cet égard les adversaires de la ratification, reconnaître des droits collectifs consiste en effet à introduire un autre sujet de droit que le sujet individuel, un autre porteur de droit que l'individu, et de ce fait, cela conduirait à mettre la reconnaissance du sujet individuel en concurrence avec celle d'un autre porteur de droit, la communauté de culture et de tradition, le groupe culturel. On pourrait effectivement redouter alors que cela n'entraînât une relativisation de la valeur absolue des libertés individuelles. Je crois donc qu'il serait effectivement aventuriste de s'embarquer dans une démarche de ce type. En ce sens, il me paraîtrait tout à fait indispensable et prudent de ne pas cautionner un document qui, s'il était accepté sans plus de précision et de nuance, risquerait effectivement d'affaiblir les garanties apportées aux libertés et aux droits individuels. Simplement, de ce point de vue, il importe d'être attentif aux précisions que le gouvernement français, lors de sa signature de la charte, il y a un an plus un jour, le 7 mai 1999, avait jugé bon d'apporter. En ratifiant, en signant, le document, le gouvernement français avait assorti sa signature d'une déclaration interprétative, le 7 mai, qui stipulait que, dans la lecture retenue par la France, je cite, « l'emploi du terme de groupe de locuteurs ne confère pas de droit collectif pour les locuteurs de langue régionale ou minoritaire ». En clair ou en plus clair, cela signifiait que les groupes seraient ici entendus simplement comme des ensembles d'individus dont la considération en tant que groupe n'implique pas la reconnaissance d'une entité supérieure aux individus qui la composent. En ce sens, la référence à de tels droits à l'identité linguistique ne consisterait aucunement à reconnaître des droits à des communautés ou à des minorités en tant que telles, mais simplement à des individus considérés dans leur appartenance à un espace culturel dont ils considèrent eux-mêmes qu'ils le partagent avec d'autres, Il me semble qu'il ne s'agissait pas là simplement d'un expédient pragmatique, mais qu'à condition d'expliciter peut-être encore ce qui était ainsi suggéré, il y avait là, ou il pourrait y avoir là, l'indication que de tels droits linguistiques et culturels sont non pas du tout des droits collectifs, mais bien des droits de l'individu à une identité culturelle qu'il tient pour constitutive d'une partie de lui-même. Et il me semble qu'une interprétation de ce type, dont je conviens qu'il faudrait l'expliciter, mais qu'une interprétation de ce type aurait au moins deux avantages. En premier lieu, elle s'inscrirait dans une démarche plus vaste, contribuant à combler ce que je tiens pour une lacune dans l'histoire des déclarations des droits de l'homme, dans la mesure où cela pourrait contribuer à y inscrire, enfin, des droits culturels, sous la forme de droits de l'individu à choisir et à voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses formes d'expression. D'autre part, souligner que les droits linguistiques sont des droits individuels et non pas des droits des groupes, cela aurait des conséquences directes que je crois très importantes sur la portée pratique, sur la signification, sur la portée pratique, oui, de la reconnaissance des langues régionales. Je me borne à retenir deux de ces conséquences. Selon l'optique que je suis en train de défendre, les individus pourront faire valoir leurs droits linguistiques comme des exigences de même statut que leurs droits individuels fondamentaux, ceux auxquels nous sommes habitués, liberté d'opinion, d'expression, etc., c'est-à-dire comme des exigences que l'État est tenu de prendre en compte. En ce sens, les droits linguistiques échapperont pour la première fois à un dispositif de simple tolérance du type de celui qui existe en France. Il existe en effet un dispositif de tolérance à l'égard de la diversité culturelle qui existe en France depuis l'adoption en 1951 de la loi Dexon. Cette loi était très importante, mais c'est sans doute une loi ou une législation aujourd'hui insuffisante. Elle accordait la possibilité d'un enseignement des langues régionales, mais elle laissait son instauration au plan local à la libre initiative des enseignants. En revanche, dans le dispositif que j'évoque, les choses se recentreraient sur la revendication par les individus eux-mêmes de leurs droits culturels et linguistiques quand ils souhaitent y faire référence, comme à tous leurs autres droits. Liberté, quand ils souhaitent y faire référence pour exprimer la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. L'État, dans cette perspective, se trouvera tenu d'organiser un enseignement répondant à ces demandes reconnues comme exprimant des droits. Et puis, l'autre conséquence de cette définition des droits linguistiques comme des droits individuels me paraît également très importante pour mesurer la teneur du dispositif que je vous propose d'envisager, puisque seul l'individu serait le sujet de tels droits, un enseignement des langues régionales ou dispensé dans les langues régionales, conçu selon ce mode, ne saurait être que facultatif. Ni les communautés, ni les écoles, ni les États ne serait en mesure de l'imposer aux individus et aux familles, ainsi qu'il convient à une conception de l'éducation qui reste inscrite dans le cadre du libéralisme politique. En ce sens, aucune primauté du groupe ne devrait être redoutée par une telle perspective, puisque c'est hors cursus obligatoire qu'un tel enseignement serait dispensé, donc sans porter atteinte en rien à la formation de l'individu. Ma conclusion est pour souligner que l'exemple des droits linguistiques témoigne ainsi, je crois, de ce que signifie la reconnaissance de droits culturels individuels, par laquelle je désigne le programme d'un multiculturalisme tempéré, tempéré par la considération des droits de l'individu. Ce programme confère au droit à l'identité culturelle le même statut que ceux que l'État libéral accorde aux autres droits individuels fondamentaux, en faisant de leur respect un impératif catégorique constitutif d'un espace politique démocratique. De même qu'il confie à l'État le soin d'assurer la coexistence des libertés individuelles se rattachant à de tels droits, ce programme laisse à l'individu le droit de choisir son identité culturelle. Cette perspective exclut tout système où le groupe pourrait organiser l'éducation de ses membres par adoption de mesures contraignantes que ce groupe jugerait nécessaires pour rendre effective la survie de sa langue. Il y a des dispositifs de ce genre dans beaucoup d'États du monde, y compris dans des États démocratiques. Le dispositif que j'envisage exclut une telle perspective, c'est-à-dire la perspective où un groupe ferait passer la survie de sa langue au-delà ou au-dessus ou par-delà le respect des libertés individuelles. Tout dispositif de ce genre m'apparaît clairement incompatible avec une perspective pour laquelle la valeur primordiale demeure celle de l'égalité des libertés fondamentales. Raison pour laquelle il ne me paraît donc pas impossible de considérer que la France, en clarifiant ainsi la portée de la Charte européenne des langues régionales, aurait pu jouer, ou pourrait jouer encore, l'un des rôles qu'elle prétend jouer dans le monde, à savoir enrichir la représentation des droits de l'homme, en l'occurrence l'enrichir à la faveur de l'intégration dans les principes mêmes de la République, l'intégration d'un multiculturalisme tempéré par l'affirmation des droits de l'individu. Je vous remercie.
Monsieur Devant, ici, il y en a une autre tout en haut. Oui. Allez-y.
Évidemment, ceux qui posent les questions n'ont pas autant de temps que vous pour s'exprimer et même tâcher de clarifier la question qu'ils veulent poser. Parce que, bien que vous ayez fait un exposé assez clair, les points de vue qui s'affrontent, que vous avez présentés, me donnent l'impression d'un débat assez confus. Hein. Bon. Mais comme le temps manque de rendre ce débat plus clair, je voudrais simplement attirer l'attention sur ce qui me paraît le plus saillant. Je me demande si ce débat-là, tel qu'il est présenté, n'est pas déjà caduque, je précise. Si les autorités européennes décidaient de faire de l'anglais une langue supranationale, si je puis dire, ou enfin européenne, dans le sens où où actuellement on s'efforce de donner aux Français ce statut-là dans les limites de l'Hexagone, si le français pourrait alors opposer quelques résistances à une telle démarche. Et d'autre part, un point qui me paraît encore plus important, est-ce que le français qui se débat pour essayer de conserver une position hégémonique, au moins dans les limites de l'Hexagone, et je rappelle que cet Hexagone n'est que le résultat de guerres et de traités, de règlements entre puissances, et donc totalement arbitraire. Par exemple, si Biarritz ne faisait pas partie de l'Hexagone, eh bien, il n'y aurait pas de problème basque, par exemple. Bon, et la Corse, si la Corse ne faisait pas partie de l'Hexagone, mais que c'était Chypre, est-ce qu'on dirait que les Chypriotes sont des Français ?
Bon, alors, abrégé, s'il vous plaît.
J'attire l'attention sur ce point, c'est que c'est peut-être la démographie qui va décider, qui va donner la réponse finale à ce débat. C'est que depuis 1975, les Français ont
qu'on a un compris,
taux de fécondité de 1.
Bon, écoutez, monsieur, je crois qu'on a compris votre question. Monsieur Renaud va répondre. Hein.
Ma question, merci. C'est que les Français sont diminués de moitié maintenant. Bon, ils sont diminués de moitié dans 25 ans. Comment est-ce que le Français va résister à cette situation ?
Je peux vous répondre, il n'y en aura plus avec votre...
Écoutez-moi, ce que j'ai essayé de défendre, c'est, je crois, en un sens, le même objectif que celui dont vous semblez vous réclamer. C'est-à-dire que si on défend l'idée qu'il doit y avoir de la pluralité culturelle et linguistique au sein de la communauté européenne, c'est-à-dire que si on veut résister à une éventuelle politique d'angloconformité, eh bien, il faut pouvoir penser un modèle de fonctionnement pour nos sociétés démocratiques qui soit un modèle où le pluralisme culturel trouve précisément une place. Et il sera extrêmement difficile, moi je vous réponds très brièvement parce que c'est à cet argument qu'il faudrait répondre, il sera extrêmement difficile à la France de résister au plan européen à un modèle d'enclos-conformité, si, d'opposer une résistance à un tel modèle, si elle n'a pas elle-même pratiqué en France une autre démarche qu'une démarche de conformisme linguistique ou d'unilinguisme. Ça lui sera d'autant plus difficile.
Monsieur là-haut.
Ne vous sent-il pas paradoxal au moment où l'Europe, par le biais de la monnaie unique, par le biais de la tentative d'uniformiser le droit européen, par le biais qu'au Conseil européen, seules trois langues soient utilisées, ne vous semble-t-il pas paradoxal qu'au contraire, l'Europe essaye d'autoriser des langues dites régionales, alors qu'elles existent de fait, et rien ne m'empêche, moi, en tant que breton, rentrant chez moi, de parler ma langue. D'autre part, ne vous semble-t-il pas non plus paradoxal que, en cherchant à s'unir comme on est en train de le faire et en essayant de cultiver auprès de chacun des peuples européens cette culture européenne qu'on est en train d'instaurer, ne croyez-vous pas qu'il serait dangereux de réformer justement cet article 2 au risque de refaire revivre en France ce qu'on voit en Autriche avec des partis fascistes qui essayent de faire monter leurs idées récessionnistes ?
Écoutez, je vous réponds sur un point très précis, c'est que le danger qu'il pourrait y avoir résiderait dans une sorte de gestion communautarienne du pluralisme culturel. C'est-à-dire, j'ai essayé de dire à quelles conditions la reconnaissance du pluralisme culturel n'impliquait pas ce qui est quand même très très lié aux perspectives que vous évoquez en terminant à propos de l'Autriche, c'est-à-dire le développement d'idéologies et de mouvements politiques qui mettent en question les libertés individuelles. Alors, dans le dispositif que je propose, on accorde une certaine reconnaissance à la diversité culturelle, donc on adopte le principe du pluralisme culturel sans que cette reconnaissance du pluralisme culturel menace en quoi que ce soit le principe des libertés individuelles. Donc c'est extrêmement difficile d'accuser un tel dispositif ou d'objecter un tel dispositif qu'il pourrait s'inscrire dans la logique de mouvements politiques et idéologiques qui comprennent en eux précisément la fragilisation des libertés individuelles. Ce que j'ai essayé de proposer, c'est précisément tout à fait le contraire.
Monsieur,
à vrai dire, moi, je trouve que les problèmes sont très différents suivant les différents secteurs. Vous avez parlé du secteur loi, du secteur justice, du secteur éducation, du secteur religion, etc. Les problèmes sont très différents. Les problèmes qui opposent les hommes en général. Les Irlandais, Dieu sait s'ils sont souvent contre les Anglais, ils ont la même langue. Donc il ne faut pas, je crois, traiter de la même façon, enfin vous me direz ce que vous en pensez, traiter de la même façon ces différents domaines. Et en particulier le domaine linguistique, car la loi ne peut faire qu'entériner ce qui existe de fait. Par exemple, dans le domaine scientifique, on voit très bien que la langue anglaise est la langue, je dirais même pas européenne, mais la langue mondiale quasiment. Donc là, on peut pas, la loi ne peut suivre que les événements qui sont des événements de fait. La race, mettre la race comme faisant partie de la culture, ça me paraît tout à fait discutable compte tenu de ce qui a sous ce terme de peu scientifique. La religion, ben, personne, effectivement, il ne faudrait pas du tout empêcher les gens de pratiquer la religion qui est, à laquelle ils pensent, tant que la religion ne devient pas un instrument politique.
Oui, je suis d'accord avec rien de ce que vous m'objectez. Donc, je ne pense pas du tout que les lois ne font qu'entériner ce qui existe de fait. Enfin, le rôle des lois est au contraire, évidemment, de définir des normes, d'écrire un devoir-être que l'application de ces lois va essayer d'inscrire dans ce qui existe. Il est bien clair, par exemple, que la loi constitutionnelle, en affirmant en 1992 que le français est la langue de la République, ne peut avoir que des effets qui vont s'inscrire dans la positivité, qui vont s'inscrire dans l'effectivité. Elle n'est pas une simple expression de ce qui existe. La loi modifie ce qui existe. Donc, de ce point de vue-là, le fait d'inscrire dans la législation par un biais ou par un autre, sous une forme ou sous une autre, une prise en compte du pluralisme culturel, modifierait aussi les dimensions de ce qui existe, et non pas simplement serait à la remorque de ce qui est. Sur le deuxième point de votre intervention, je n'ai jamais évoqué, je crois que je n'ai pas prononcé une fois le terme de race, et évidemment je n'ai en aucun cas voulu dire que la race devait faire partie de la culture. Donc j'ai essayé simplement de dire que si nous défendons le principe du pluralisme culturel, ce que, en général, il me semble, nous défendons, notamment au plan interculturel, au plan international, au plan européen, par rapport à des phénomènes comme l'anglicisation, par rapport au phénomène de globalisation ou de mondialisation. Et bien évidemment, dans les identités culturelles que nous défendons, l'identité linguistique a une place. Et que cette identité linguistique, si nous voulions la penser dans la relation entre le national et le métanational, entre le national et le post-national, comme on dit de plus en plus aujourd'hui, peut-être qu'il n'était pas absurde d'apprendre aux Français eux-mêmes, et peut-être aux enfants de France eux-mêmes, à cette relation ou cette articulation, la penser à l'intérieur de l'entité nationale. Voilà. J'ajoute que tout de même dans cette affaire, il y a un élément, je crois, où on peut partager un certain nombre de convictions assez aisément, c'est que les sociétés démocratiques contemporaines sont des sociétés qui fonctionnent à l'authenticité. C'est-à-dire que ce sont des sociétés où l'individu essaye d'être lui-même. On lui demande d'être lui-même. On lui demande d'être lui-même et de s'affirmer dans sa spécificité, dans son identité, dans son ipséité, comme disent les philosophes. Or, dans la façon dont nous nous identifions à quelque chose, pour certains d'entre nous, il y a précisément une part de nous-mêmes qui réside dans cette appartenance à un capital, à un ensemble de traditions, à un ensemble d'héritages dans lesquels celui-ci se reconnaît. Comment ne pas, là encore, avec un statut ou sous une forme qui n'entre pas en contradiction avec par ailleurs la reconnaissance des droits individuels, comment ne pas chercher à donner droit à cette reconnaissance de chacun dans une part de son identité qu'il interprète en termes d'héritage culturel et linguistique. Pourquoi, a priori, le récuser ?
Oui. Vous nous avez donné, à propos du problème des langues régionales, des explications très claires sur ce problème compliqué. Et vous en avez tiré donc un schéma de ce qu'il serait souhaitable de faire. Je voudrais savoir comment vous appliquez ce schéma à deux problèmes non encore résolus et qui ont secoué la société française. Je pense au droit des jeunes filles musulmanes à porter le foulard à l'école et à ne pas assister aux cours de gymnastique. Problème moins aigu, mais réel aussi, au droit des élèves israélites dans les écoles à ne pas assister aux cours du samedi et à ne pas subir d'examen ce jour-là.
Si vous me forcez à répondre au sujet qui fâche, je suis grillé d'avance. Je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, inévitablement, réfléchir en public sur la place qu'on pourrait accorder au pluralisme linguistique dans une société comme la France implique une réponse à ces questions-là. Enfin, c'est quand même un passage à la limite que vous me demandez de faire. Hein ? Voilà. Alors, je vais répondre quand même. Non, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, j'ai défendu dans sur la question du foulard coranique, par extension, le deuxième exemple, enfin, pour la question du foulard coranique, j'ai défendu qu'il fallait accepter les jeunes filles portant le foulard à l'intérieur des classes. C'est-à-dire, j'ai défendu une position qui était la non-exclusion à cette condition expresse et non négociable près, hein, qui est que la totalité du suivi de l'enseignement obligatoire soit assurée. C'est-à-dire que là, en revanche, je trouve que c'est parfaitement non négociable et que le seul motif d'exclusion, ça n'est bien sûr pas, pour moi, le port du foulard coranique, c'est la façon dont le port de ce foulard ou toute autre chose s'accompagnerait d'une sélection dans le suivi de l'ensemble de l'enseignement obligatoire. Donc moi, j'ai défendu cette position, je n'en changerai pas.
Voilà. Oui, bonjour, monsieur, bonjour. On reste dans le même coin. Je suis là, c'est votre droite. En fait, moi, j'ai une double question. La thèse et l'antithèse. Bon, alors, en fait, si les individus apprennent plusieurs langues, dont le français, plus la langue régionale, ils n'ont plus de place pour, dans leur tête pour apprendre une langue étrangère. Alors, bonjour à la communication étrangère. Et en plus, à l'inverse, si les langues régionales finissent par bouffer le français, finissent par amener le français à être une langue morte, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pensez, vous?
Ah, je réponds. Moi, je crois, par expérience, je crois que je suis toujours très frappé par le fait que ceux de mes amis et collègues ici ou là qui parlent une pluralité de langues sont ceux qui sont le plus ouverts au plus grand nombre d'acquisitions encore envisageables. Je ne crois pas du tout qu'il y ait risque de saturation, si vous voulez. Je crois qu'effectivement, le multilinguisme, la capacité de multilinguisme est extrême. Donc,
je voudrais vous demander si vous pouvez nous donner un exemple de pays, je pense que ça existe, où justement le multilinguisme est dès l'origine, enfin dès le bas âge, mis en pratique. Et je pense qu'effectivement, c'est une ouverture très grande.
Non, mais il y en a beaucoup, enfin, y compris l'Espagne, par exemple. Donc là, ce n'est pas très difficile. Ce qui est difficile, c'est plutôt de faire attention à ce que ces pays ne soient pas aussi des pays où, pour protéger le multilinguisme, on tombe dans le travers que j'évoquais allusivement en terminant, c'est-à-dire qu'on dise que la protection des droits d'un groupe à parler sa langue doit donner lieu à des obligations. Et ce que je visais, en l'occurrence, c'est malheureusement le Québec et l'existence d'une loi qui limite pour les immigrants non francophones la possibilité qui leur est laissée de choisir le type de langue dans lequel leurs enfants sont élevés. Donc je trouve que la question n'est pas tellement de trouver des pays où effectivement ça fonctionne, il y en a fort heureusement beaucoup. La question est plutôt de faire en sorte que dans ces pays, enfin d'observer si dans ces pays, le choix de la diversité linguistique dans lequel les enfants sont éduqués ne s'assortit pas de mesures contraignantes qui font que, dans ce cas-là, au fond, on tomberait dans le travers qui a été objecté à la Charte des langues régionales par leurs adversaires, par ses adversaires, qui est qu'elle sacrifie les droits des individus aux droits des groupes.
Alors, on va prendre encore trois questions, une autre et une autre. Voilà, monsieur.
Oui, ici. Voilà. Bien, il m'a semblé qu'au-delà du contenu direct de l'exposé, la leçon portait en fait sur la conjugaison du droit à l'identité des individus et de la nation, non pas d'une part et d'autre part, mais vraiment ensemble. Or, et qu'il y avait aussi deux dimensions de l'identité qui devaient se conjuguer, qui cherchaient à se conjuguer. D'une part, le droit à une identité ancrée culturelle, mais ancrée dans des valeurs du passé, et d'autre part, une identité projectuelle dans la mesure où chacun, l'individu et la nation, construisent son identité par la réponse qu'il apporte aux enjeux de son époque. Ma question, il me semble que là, ces deux choses-là se sont opposées. C'est-à-dire que d'une part, l'individu avec ses acquis et la nation vers le projet.
Oui. Le modèle que j'essayais de construire, deux éléments de réponse simplement pour aller vite. Le modèle que j'essayais de construire tentait d'intégrer cette part de l'identité qui fait référence au passé et cette part de l'identité qui fait référence à l'avenir. Donc tentait de ne pas sacrifier en quelque sorte l'identité projet à l'identité héritage. Et la médiation qui permettait de ne pas sacrifier l'identité projet ou l'identité construction à l'identité héritage, c'était précisément la liberté, c'est-à-dire le fait que la condition de reconnaissance laissée aux identités culturelles, c'était qu'elles fussent compatibles avec le choix que l'individu en fait, qu'elles ne fonctionnent pas sur le mode d'une identité que le groupe impose à ses membres. Donc c'était ça la médiation. Par ailleurs, juste deuxième élément de réponse néanmoins, moi j'ai tendance à considérer que, y compris l'identité culturelle, l'identité autour de valeurs culturelles, peut être une identité choisie, peut être une identité construite. On peut choisir de se reconnaître parmi les différents héritages qui nous sont au fond offerts dans une diversité culturelle, dans une société culturellement diverse, on peut choisir de se reconnaître plutôt dans tel ensemble de valeurs que dans tels autres. Moi, j'essaye désespérément depuis 15 ans de me faire reconnaître comme, solidaire d'une identité culturelle qui se trouve quelque part dans le sud-ouest de la France. C'est extrêmement difficile, mais on peut choisir de se reconnaître dans une culture, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, ça n'est pas en contradiction avec, par ailleurs, une identité projet. On peut se donner comme projet de se reconnaître dans une identité.
Alors, madame et monsieur, nos deux dernières questions.
J'aurais aimé, compte tenu du temps qu'il vous reste, vous nous parler un tout petit peu de ce que les anglo-saxons appellent la discrimination positive et du modèle de société que ça...
Oui. Écoutez, très exactement, dans son modèle pur, la discrimination positive, ou l'affirmative action, tombe dans le travers... que j'ai essayé de dénoncer, c'est-à-dire qu'elle essaye de réparer les dégâts causés à certains groupes par notamment une culture dominante en mettant en place des moyens législatifs ou réglementaires, par exemple dans l'accès aux universités ou dans le recrutement des professeurs des universités, faisant en sorte que si vous êtes... par exemple, membre de tel groupe culturel, eh bien, vous avez plus de chances, même si les résultats à vos tests d'entrée dans une université américaine sont inférieurs à ceux de tel ou tel autre étudiant, vous avez plus de chances de voir votre dossier accepté. Alors, c'est très exactement une manière de procéder dont on voit bien que l'objectif est, au fond, en lui-même défendable. Il s'agit de, d'une certaine façon, rendre justice à une diversité culturelle qui a été, ou à une pluralité culturelle qui a été mutilée par une politique de conformité. Mais par là même, on répare en quelque sorte les dégâts causés à un groupe et aux individus membres de ce groupe en niant des libertés individuelles, puisque à égalité de réussite ou de performance, eh bien, on va privilégier plutôt un individu pour entrer dans une université ou pour être recruté comme professeur dans une université, plutôt que tel autre individu, non pas en raison de ses mérites, de ses efforts ou de ses compétences individuelles, mais en raison de ses appartenances collectives. Et donc, on peut considérer, je considère personnellement, que sous cette forme dure, la discrimination positive est effectivement très exactement le type de réponse au problème du multiculturalisme qui n'est pas tempéré par la considération des libertés individuelles.
Dernière question.
Oui, moi, bonjour professeur. Moi, je voulais en revenir à l'exposé, à la dichotomie que vous faites entre les droits, je dirais, relatifs à la liberté individuelle, propre à l'individu, et ceux qui pourraient être éventuellement conférés à des groupes. Je crois qu'au contraire, en démocratie, la société civile réunit des groupes sociaux au travers de partis politiques, au travers d'associations ou encore au travers de syndicats et délègue par conséquent certains droits. Donc pourquoi ce ne serait pas le cas au niveau de communautés autonomes comme il existe par ailleurs déjà dans d'autres pays européens comme l'Europe, comme l'Espagne, l'Italie ou encore le Royaume-Uni avec l'émergence de l'Écosse. Et est-ce que, au fond, ce que vous nous proposez n'est pas une façon de défendre une conception uniciste de l'État qui peut-être est d'ores et déjà moribonde? Voilà.
Pas forcément, parce que je répondrai ensuite plus directement à votre question, mais sur la fin de votre question, je réponds tout de suite. La question de l'autonomie régionale et de savoir s'il faut adopter un modèle plus décentré politiquement, avec une autonomie des provinces et des régions, n'est pas posée par mon propos. Je veux dire, c'était vraiment pas mon propos. Ce modèle existe en Espagne, avec des réussites et des échecs qu'il faudrait pondérer, mais il existe, donc il doit être possible, y compris dans le cadre d'une vieille démocratie européenne. Bon, il serait très difficile de l'injecter en France, parce que là, il faudrait remonter tellement à contre-courant de l'histoire de la modernisation politique en France qu'on peut difficilement l'envisager. Mais en tout cas, le problème n'était ni posé, ni la solution du type de celle que vous évoquez n'en était pas non plus exclue par mon propos. Ou en revanche, j'essaye de construire, c'est au fond le modèle d'un multiculturalisme non seulement tempéré, mais aussi le modèle d'un multiculturalisme politiquement libéral. Parce qu'il se trouve que dans les débats de philosophie politique contemporaine, le multiculturalisme a plutôt été capté par une philosophie politique communautarienne, c'est-à-dire qui substitue effectivement les communautés elles-mêmes, les groupes eux-mêmes, à l'individu comme sujet de droit. Or, ceci a des effets multiples, pervers, on en a rencontré quelques-uns chemin faisant, que pas tellement besoin de dénoncer, ou alors il faut assumer vraiment une philosophie de ce type. Du coup, si on essaye de construire un multiculturalisme libéral, c'est-à-dire une intégration du pluralisme culturel d'une part et du respect des libertés individuelles d'autre part, forcé, me semble-t-il, de penser la diversité culturelle comme un des éléments, une des libertés que les individus se reconnaissent à eux-mêmes, et donc de faire l'économie de l'apparition à un quelconque moment de l'argumentation des groupes comme support de ces droits culturels. Et je crois qu'on peut le faire. Alors, du coup, si vous voulez, il y a de l'autre côté, du côté de l'autre modèle, c'est-à-dire d'un multiculturalisme communautarien, tellement d'inconvénients que je ne vois pas pourquoi on s'embarquerait dans cette direction, dont le fait qu'on l'ait privilégié en général dans la philosophie politique contemporaine fait qu'on a l'impression que la seule alternative au multiculturalisme de type communautarien est de réaffirmer un monoculturalisme strict dont je trouve qu'il ne prend pas en compte un certain nombre de problèmes des sociétés contemporaines. Maintenant, dernier point, bien sûr, il y a des droits collectifs dans les sociétés démocratiques. Il y a des droits collectifs, il y en a de multiples. Vous parlez des droits des syndicats. Moi, je prends toujours, à chaque fois on me fait cette objection-là, je prends toujours l'exemple du droit des femmes enceintes, qui ont des droits spécifiques. Simplement, il n'était pas question de ces droits-là. Il est question de savoir s'il s'agit de reconnaître des droits de l'être humain, des droits ayant le statut des droits de l'homme, c'est-à-dire des libertés fondamentales, et non pas des droits positifs particuliers, à des groupes en tant que tels. Le débat porte là-dessus, il ne porte pas sur l'existence de droits collectifs positifs concernant telle ou telle catégorie de la population dans tel ou tel secteur de leur activité. Heureusement, il y a des droits collectifs, oui, en ce sens-là.
Merci beaucoup.